Le fils Moga, deuxième partie, chapitre 8. On était bien, en effet, dans cette verdure enveloppante, à côté de cette source qui coulait goutte à goutte avec un murmure endormeur. On ne voyait plus rien de la plaine, si ce n'est les pointes ensoleillées des peupliers et tout au loin les deux tours sveltes du donjon de Précigny. Une aromatique odeur de menthe s'exhalait des talus de l'Aigrone et embaumait l'air. Marcel s'était décoiffé et Étienne, blotti près d'elle dans cet enfoncé d'herbes molles autour desquelles les feuillets se relevaient de tous côtés, pouvait admirer de très près ses abondants cheveux blonds crêpés, ses sourcils minces artistement noircis à l'aide du crayon, ses grands yeux gris hardis, son teint mat que la chaleur pâlissait encore, et sa bouche moqueuse. « Là !» dit-elle en arrangeant les plis de sa robe qui frôlait les jambes de son compagnon. « Me voici à merveille pour écouter. Contez-moi une histoire, monsieur Moga. L'endroit doit vous inspirer, vous qui êtes romanesque. »
Romanesque ?
Mais non, vous vous trompez, répondit Étienne qui commençait à être fort embarrassé de la situation. Si fait, vous devez vivre dans les nuages, à la recherche de l'idéal. Vous n'êtes pas du tempérament de monsieur Brossard, vous, et les beautés en chair et en os ne vous induisent pas à la tentation. Vous êtes sage et sérieux comme un livre instructif, dont la mère, sans danger, peut permettre la lecture à sa fille. » Elle le lui lança au nez un bref éclat de rire, tout en le regardant malicieusement entre ses cils baissés.
« C'est-à-dire que vous me prenez pour un être absolument inoffensif ?» demanda Étienne, piqué au jeu.
« Ai-je dit inoffensif ? » fit-elle en levant les yeux en l'air.
« Non.
Mais franchement, croyez-vous que si vous aviez l'humeur de M. Brossard, je me serais risqué à vous emmener ici ?» Elle se penchait interrogativement vers Étienne et leurs têtes se touchaient presque. Le jeune homme sentait vaguement contre son épaule le va-et-vient de la poitrine de Marcel, soulevé mollement par une respiration égale et calme. En même temps, une fine odeur de verveine qui imprégnait les vêtements de la jeune fille lui montait à la tête. Pas plus que Brossard, il n'était un ange, et il commençait à s'en apercevoir.
« Le percepteur vous semble plus redoutable que moi ? » murmura-t-il en riant.
« Lui ? Il n'aurait pas été 2 minutes ici sans devenir d'une galanterie insupportable. »«
Diantre ! »
répliqua Étienne en s'enhardissant et en posant sa main sur le bras de Marcel. « Que serait-il arrivé alors ? Vous auriez bien été forcé de l'écouter. »«
Monsieur Brossard ? » répondit-elle en regardant de côté son interlocuteur.
« Il n'y a pas de danger. Je ne l'aime pas. »
Cela commençait à devenir clair, et Étienne était suffisamment averti que ses audaces ne choqueraient pas trop mademoiselle Marcel.
La peau fraîche du bras nu lui brûlait les doigts. Un grain de réflexion qui lui restait le poussa néanmoins à fuir la tentation, et il se leva brusquement.
« Qu'est-ce qui vous prend ? » s'écria Marcel étonné.
« Je meurs de soif et je vais boire à la fontaine. »
Elle le retint par le bras et, le forçant à se rasseoir,
« Restez, dit-elle. J'ai promis de vous donner quelque chose pour votre peine et je veux remplir ma promesse. »
Elle chercha dans la poche de sa robe et en tira une pêche soigneusement enveloppée de feuilles de vigne. Une belle pêche rebondie, cramoisie et veloutée.
« Tenez, continua-t-elle, je l'avais prise au jardin comme en cas, je vous la donne. Elle vous rafraîchira mieux que la fontaine. »
L'aspect seul du fruit faisait venir en effet l'eau à la bouche. Cependant, Étienne se défendait de l'accepter.
« Merci, disait-il en plaisantant. Je ne suis pas égoïste à ce point, et je ne veux pas vous en priver.
Eh bien, soit, partageons. Avez-vous un couteau ?
Non, il avait même oublié son canif à l'atelier. Marcel, demi-souriante, regardait d'un air malicieux la pêche, puis Étienne.
« Bah, reprit-elle, à la guerre comme à la guerre !»
Et coulant vers lui une diabolique œillade qui aurait ensorcelé Saint-Antoine,
« Vous n'êtes pas dégoûté de moi, je suppose ?»
Elle enfonça ses petites dents blanches dans la chair juteuse, en mordit une bouchée, puis, tendant la pêche entamée au jeune homme, avec un indéfinissable sourire, « Prenez, murmura-t-elle, voici votre part. »
Il saisit brusquement le fruit ainsi que la main qui le présentait. La pulpe savoureuse, où étaient encore marquées les dents de la jeune fille, fondit en un instant dans la bouche d'Étienne. Et, en un instant, ses lèvres se posèrent sur les doigts tout parfumés du jus de la pêche. Elle le laissait faire, silencieuse, les yeux baissés et souriant sournoisement. Il s'écoula alors quelques secondes de voluptueuse griserie, pendant lesquelles Étienne, étourdi comme un enfant qui a bu du vin doux, fut sur le point de commettre la pire des sottises. Tout à coup, les sons grinçants de la vielle retentirent au milieu du calme de la prairie que le soleil n'éclairait déjà plus. Et, heureusement pour le peintre, sa blonde sirène des bords de l'Aigrone détruisit elle-même, par une réflexion intempestive, le charme sous lequel elle avait un moment tenu son compagnon.
« Entendez-vous la vielle ? » dit-elle de sa voix railleuse. « En ce moment, votre petite paysanne de la Joubardière ouvre le bal avec son amoureux. »
Étienne fronça le sourcil. « Qu'est-ce que cela peut vous faire ? » balbutia-t-il.
« Elle m'intéresse, cette jeune peau d'âne. Son histoire a l'air d'un conte de fées. Comment l'appelez-vous ? »
Elle se nomme Thérèse. En passant sur ses lèvres, les syllabes de ce nom lui firent l'effet de l'ammoniaque sur un homme ivre. Sa main lâcha les doigts de Marcel, et il resta pensif et dégrisé. Le sang-froid lui revenait. Il eut soudain la vision très nette de ce qui adviendrait s'il poussait plus loin son aventure avec sa voisine. Il se vit, doublant le rôle de Brossard, ou, ce qui était pis encore, devenant le mari de Mademoiselle Marcel. Là-dessus, un frisson le prit et il secoua nerveusement les épaules. Pendant ce temps, Marcel, froissé d'une distraction aussi prolongée, le regardait en dessous en se mordant les lèvres. Elle avait mis Étienne en si beau chemin qu'elle trouvait étrange qu'il s'arrêta en route. Le dépit lui montait à la tête et allumait une flamme maligne dans ses yeux. Ovide dit quelque part qu'on se fait une ennemie d'une femme qu'on laisse aller après lui avoir pris un baiser. Étienne n'attendit pas longtemps avant de vérifier la justesse de cette observation. « Eh bien ? » dit Marcel d'une voix acerbe. « Vous voilà muet ? Est-ce le nom de cette fille qui vous a pétrifié ?»«
Je vous en prie, s'écria-t-il impérativement, ne parlons plus de Mademoiselle Desroches.
« Tiens, vous connaissez même son nom de famille. Vous en saviez plus long que vous ne vouliez le dire ?»
Elle s'était levée et brisait violemment les brindilles d'arbustes qui lui tombaient sous la main. Elle finit par ramasser son ombrelle, rassembla d'un geste nerveux les plis de sa jupe, se recoiffa et écarta les branches qui obstruaient le passage.
« Vous partez ?» balbutia Étienne en se levant à son tour.
« Êtes-vous fâché ?»«
Fâché, moi ? Point du tout. Seulement, il fait trop froid ici, et je vais chercher un châle. »
Elle sortit vivement du fourré, fit quelques pas dans la prairie,
et se retournant soudain vers Étienne, qui n'avait pas bougé,
« Si je rencontre mademoiselle Desroches, »
dit-elle d'un ton sarcastique,
« je vous l'enverrai. »
Il restait immobile au milieu des clématites, regardant Marcel s'éloigner et se trouvant ridicule. Bien que la Bible l'ait proposé pour exemple à la jeunesse, c'est un assez sot personnage que celui de Joseph. C'est ce qu'on appelle au théâtre un rôle sacrifié, et il faut être très fort pour le jouer d'une façon supportable. Il n'y avait réellement pas à s'enorgueillir de ce piteux dénouement. Néanmoins, Étienne se trouvait heureux d'en avoir évité un autre, plus flatteur pour son amour-propre, mais infiniment plus cabreux. Le jour tombait. Dans le silence crépusculaire, la voix fraîche de l'Aigrone semblait avoir doublé de volume. Au loin, derrière les peupliers, les convives du Burlot chantaient. Une voix traînante entonnait un air rustique dont le refrain était repris par toute la table, et dans les intervalles, on distinguait la nasillarde mélodie de la vielle. Étienne demeura longtemps sous les tilleuls de la Fongaudron. Il ne se souciait pas de retourner au Burlot, et l'idée lui vint de gagner à travers champs la côte des Murées. Là, au moins, il pouvait se promener en paix sans risquer de rencontrer les dames du Vigneau. Il marchait lentement sur la route obscure, la tête basse, le front mélancolique, assez mécontent de cette journée de fête et regrettant de n'en avoir pas profité pour parler à Thérèse. Tantôt, s'éloignant de Précigny, il montait vers les bois de pins déjà noyés dans une chaude brume bleuâtre. Tantôt, rebroussant chemin, il revenait vers le bourg où des lumières éparses semblaient regarder aux fenêtres des façades assombries. Puis, ennuyé de rentrer chez lui par cette belle soirée d'août, il montait de nouveau vers les bois. Tout à coup, un pas net et léger fit crier le sable derrière lui. Il se retourna instinctivement et aperçut mademoiselle Desroches. Elle avait accroché à son bras son chapeau de paille et marchait nu-tête. En reconnaissant Étienne, elle eut d'abord un geste effarouché. Quant à lui, à la vue de Thérèse, il s'était senti redevenir joyeux et sa figure s'était désembrunie. « Bonsoir, mademoiselle Thérèse, » lui dit-il en lui tendant la main. Elle le regarda à peine et sa main effleura froidement la sienne. « Bonsoir, monsieur Moga, » répondit-elle sans s'arrêter. « Vous revenez seul ?» continua-t-il en se mettant à marcher près d'elle. « J'ai laissé le père avec ses métiveurs et je retourne souper à la Borderie. »
« Vous n'avez donc pas mangé avec les gens du Burlot ?»«
Non. »
« Ni dansé ?»«
Ni dansé. » Les insinuations de Marcel revinrent à l'esprit d'Étienne, et il ajouta «
Peut-être vos amis n'étaient-ils pas à la fête ?»
Elle le regarda droit dans les yeux.
« Quels amis ?»«
Ceux avec lesquels vous dansez d'habitude. »
« Je ne danse jamais. »
« Vraiment ? Vous aimiez pourtant bien le bal autrefois.
Vous souvenez-vous de la noce de Célestin ?»«
Oui, » dit-elle,
« mais j'ai changé depuis.
»« Tant de choses ont changé. »
Ils étaient arrivés sous bois. Un vent faible murmurait dans les pins, et cette musique plaintive, causée par la vibration de l'air dans les aiguilles des arbres résineux, semblait la voix lointaine des jours passés, dont Étienne venait d'évoquer le souvenir.
« Laissez-moi vous accompagner encore un peu, » reprit le jeune homme. « Je suis si heureux de vous avoir rencontré ce soir. Je m'en voulais de ne pas vous avoir parlé dans la prairie, et vous avez dû prendre une triste opinion de moi. J'ai pensé que vous n'aviez rien de particulier à me dire, ou bien que vous craigniez de déplaire à la personne avec qui vous étiez. »
Étienne haussa les épaules. « Cette personne m'est indifférente, et je me soucie peu de lui plaire ou de lui déplaire.
Ce n'est pas ce qu'on prétend. »
« Et que prétend-on ? Que vous devez l'épouser ?
On se trompe !
s'écria-t-il avec humeur. « Je n'ai jamais songé à faire une pareille sottise !»
Il y eut un moment de silence. On n'entendait plus que le bruissement léger de leurs pas sur le sol jonché d'aiguilles de pin. Il faisait nuit sous les branches, et Étienne ne pouvait plus distinguer les traits de Thérèse, sans quoi il eût remarqué que son visage, après être resté longtemps morose et comme fermé, commençait à se détendre et à s'épanouir. Elle s'arrêta un instant pour respirer, puis elle reprit d'une voix radoucie « Si on s'est trompé, c'est que vous avez peut-être aidé les gens à se tromper, en fréquentant cette personne plus que de raison. J'ai eu tort, j'en conviens, et je m'en suis aperçu ce soir. Aussi me suis-je réfugié sur cette route pour éviter d'aller dîner chez le notaire. » Thérèse se mit à rire de son bon rire limpide et enfantin des anciens jours.
« Vous vous êtes mis au pain sec ?
Voilà ce qui s'appelle faire pénitence de ses péchés. »
« À la bonne heure ! » s'écria Étienne. « Je vous retrouve tel que vous étiez autrefois. Votre air rude et chagrin me faisait de la peine.
C'est que j'étais fâché.
Et maintenant ?
Et maintenant je ris, vous le voyez bien.
J'aime à vous entendre rire. Je suis contente, parce que je vois que mes craintes n'étaient pas sérieuses.
Franchement, cette demoiselle ne vous convient pas.
Elle n'est pas digne de vous.
Et si vous avez envie de vous marier...
Me marier ?
Interrompit Étienne. Je n'ai plus le loisir d'y songer. Il s'arrêta un moment et, s'appuyant au tronc rugueux d'un pin, les bras croisés, les yeux levés vers les étoiles qu'on entrevoyait à travers les branches,
« Il y a eu un temps, soupira-t-il, où je rêvais un intérieur selon mes goûts, une petite maison où il y aurait eu une femme aimée et des enfants. Mon père a bouleversé tout cela. Qu'ai-je à offrir à une femme ? Un avenir douteux ? Un nom discrédité, exécré dans le pays qu'habite celui dont elle deviendrait la belle-fille ?
Vous ne voyez plus votre père ? Demanda Thérèse.
« Je ne l'ai pas revu depuis la mort de ma mère. Mais ce que j'apprends de temps à autre n'est pas de nature à me peindre l'avenir en rose. Voyez-vous, je suis persuadé que les mauvaises actions portent en elles le germe de leur propre châtiment, et je tremble qu'un jour ou l'autre, la catastrophe n'éclate.
« Parlons d'autre chose, » murmura-t-il en se remettant à marcher.
« Parlons de vous. » Et de votre avenir à vous, Thérèse.
Mon avenir, dit-elle en souriant,
il tient tout entier dans ce petit coin de la Touraine.
Ils avaient atteint la lisière du bois, et, à 100 pas d'eux, se dressait la joubardière avec son colombier, ses toits de chaume et ses meules de paille. Du côté des engrangements, les chiens aboyaient de leur voix retentissante et profonde. Une lumière scintillait à la vitre du rez-de-chaussée entre les branches d'un figuier. « Voyez, » continua Thérèse en faisant avec son bras un geste circulaire. « Là-haut, le bois des Courtils. Là-bas, la vallée des Tableaux. Voilà où se passe ma vie depuis 5 ans. Et je ne forme qu'un souhait. C'est qu'elle s'y passe jusqu'au bout. » Étienne restait muet. Cette métairie, perdue à la lisière des bois et paisible sous le ciel étoilé, lui faisait envie. Il se sentait le cœur serré à l'idée de quitter la jeune fille et de s'en retourner seul vers le maussade logis de M. Minique. Avec sa perspicacité de femme, Thérèse, qui le regardait à la clarté des étoiles, devina sa pensée qui rembrunissait son visage.
« Monsieur Étienne, » dit-elle en poussant la barrière qui donnait accès dans la cour, « vous ne trouverez plus rien à manger à cette heure, après Signy, et il n'est pas juste que vous dîniez par cœur pour m'avoir accompagné.
Voulez-vous partager le souper de la joubardière ?»
Les yeux d'Étienne s'éclairèrent.
« Ah ! » dit-il, « j'accepterai de grand cœur si je ne craignais d'être indiscret. »«
Nenni, vous aurez un maigre souper, voilà tout. »
« Venez !»
Elle lui prit la main et, Après qu'ils eurent ensemble monté les degrés, elle poussa doucement la porte de la cuisine. À la lueur de la lampe, Étienne revit la haute cheminée, le dressoir où la vaisselle faisait des taches blanches dans la pénombre, et la grande armoire à linge à côté de l'horloge. À l'un des bouts de la table oblongue et massive, deux couverts étaient dressés. Au milieu, un jambonneau de mine appétissante faisait vis-à-vis à une salade de laitue et d'œufs durs. Près de la lampe, la baillère jaune filait un fuseau. Derrière les cendres tièdes de l'âtre, un cri-cri chantait et le chat du logis ronronnait sur une chaise. « Maman, » dit Thérèse à la bonne femme qui ouvrait des yeux ébahis, « voici Monsieur Étienne Mauga, dont je t'ai souvent parlé. Il m'a reconduite et il soupera avec nous. »